Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel. Ici Nathalie Garraud pour l'émission Un chemin pour s'épanouir en présence d'Émilie. Bonjour Émilie et bonjour à tous nos auditeurs bien sûr.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. De quel sujet on va parler aujourd'hui ?
Alors, le mois dernier, nous avons cherché des solutions pour réussir à se libérer de la culpabilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre un peu en développant la question du pardon ou de la résilience.
Alors, le pardon, je pense que tout le monde connaît, évidemment, ouais. Mais la résilience, c'est un terme qu'on n'entend pas si souvent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ?
Alors, en fait, la résilience, c'est le fait d'arriver à accepter une situation douloureuse, par exemple. Je trouve que cette notion fait écho au pardon parce que, des fois, quelqu'un t'a profondément blessé, et même parfois volontairement, donc soit par bêtise, par vengeance, par méchanceté, enfin, ou peu importe, en fait, parce que dans ces cas-là, il ne demande pas pardon. Et donc, pardonner à quelqu'un qui ne nous demande pas pardon, c'est compliqué, non ?
Oui, déjà que quand quelqu'un demande pardon, c'est pas forcément évident d'être dans l'état d'esprit qui conduit à ça. Donc, c'est sûr que oui, si en plus il n'y a pas cette démarche-là, c'est encore plus sensible.
Mais de toute façon, c'est une des raisons pour lesquelles les actions en justice sont intentées par les victimes. Parce que, en fait, elles ont besoin d'entendre de leur bourreau une hypothétique demande de pardon. Et ce pardon qui peut libérer la rancœur, qui nous bouffe le cœur, ça nous pourrit la vie. Et selon ce qu'on a subi, c'est pas simple d'oublier. Personnellement, j'ai des personnes qui m'ont énormément fait souffrir, que ce soit des personnes malveillantes dont je m'en fiche et qui n'auraient dû avoir aucune emprise sur ma vie, en fait, ou des personnes intimes qui m'ont calciné le cœur. Enfin, j'avais leurs actes, leurs paroles complètement vissées dans ma chair, presque. Et tellement la souffrance était horrible, j'arrivais pas à m'en séparer, si tu veux. Et bien sûr, plus la personne t'est proche, plus la douleur peut être profonde.
C'est sûr, parce qu'on se méfie moins avec les personnes qui nous sont proches, qui sont intimes, comme tu dis. Et puis, forcément, on ouvre un peu plus notre cœur et c'est là qu'il est peut-être le plus
vulnérable.
À la merci ou vulnérable. Mm-hmm.
Mais en fait, c'est ça, parce que involontairement, même une maladresse, si tu veux, ou un accident, quelque chose qu'on ne savait pas ou auquel on ne pensait pas, ça peut être un truc tout bête. L'autre jour, j'ai regardé Koh-Lanta avec ma fille et un des participants en a blessé un autre en le cognant. C'était pas volontaire et il se sentait vraiment mal. Donc, on revient à la culpabilité dont on a déjà parlé précédemment dans les émissions du mois dernier. Donc, du coup, on peut constater que le pardon peut être nécessaire, mais de notre part, parce que pas forcément de la part de l'autre. Dans ce cas-là, par exemple, l'autre participant n'avait aucune rancœur contre la personne qui lui avait fait mal. Et elle n'avait même pas besoin de pardon, parce qu'elle savait très bien que le coup était involontaire. Et je me rappelle aussi une fois à la fac, j'avais un copain de la bande qui passait son temps à insulter mon père. Enfin, il trouvait ça super marrant, donc de voir que ça me blessait profondément. Donc, mon père était assureur, et donc Luc répétait tout le temps, tu sais, la phrase, on entend ça aussi pour les garagistes ou d'autres, mais les assureurs, c'est tous des voleurs. Et il me fixait pour me faire réagir, tu vois, c'était vraiment méchant, quoi.
Donc, ou en tout cas, c'était fait pour taquiner, sauf que tu le prenais pas comme ça.
Ouais, c'est une taquinerie qui était quand même piquante.
Un peu lourd.
Ouais, et puis tu sais, il attendait de me mettre en colère. Donc moi, je gardais mon calme parce que je trouve que c'est pas bon la colère. Je rétablissais la vérité. Je disais qu'il fallait pas généraliser et que mon père, il avait bien des défauts. Mais ça, on peut pas lui reprocher parce qu'il est honnête au-delà de tout, d'une intégrité assez impressionnante. Donc voleur, c'est plutôt lui qui se faisait arnaquer. D'ailleurs, on avait les huissiers qui vidaient la maison régulièrement, donc c'était compliqué pour que papa et maman nous nourrissent. Bref, donc un jour, pas fait comme un autre, je suis sortie de mes gonds et je lui ai dit « ça suffit, plus jamais t'insultes mon père, tu ne sais peut-être pas ce que c'est que d'avoir un père qui s'est sacrifié pour toi, mais moi je sais, parce qu'en fait mes parents se privaient pour nous nourrir et tout, et je le voyais ». Et du coup, Luc a quitté la table en pleurant. Donc, j'étais sidérée, tu vois, le mec grande gueule qui me bousculait depuis des mois et des mois, qui fond en larmes comme ça. En fait, j'ai appris que son père l'avait abandonné avec sa mère. Mais j'aurais jamais pu l'imaginer. Et donc, lui, il m'a blessée volontairement et moi involontairement.
Sauf que lui, il envisageait peut-être pas les blessures toi-même que tu avais, les blessures personnelles par rapport à ta situation familiale, dont il n'avait pas conscience non plus. Même s'il essayait de te blesser, il connaissait pas tout ce qu'il y avait derrière.
Oui, d'un autre côté, quand on dit ton père c'est un voleur, tu sais pertinemment que tu vas blesser la personne.
Ah ça c'est certain. Mais disons peut-être qu'il n'imaginait pas à quel point.
Oui, tout à fait. Et moi, j'imaginais pas du tout qu'il pouvait avoir cette blessure. Surtout que quand tu as une fragilité, tu t'amuses pas à tacler les autres, celle-là où ça peut te faire mal à toi. Enfin,
faut c'est pas malheureusement être... un schéma qu'on répète. Ouais, ça se voit assez souvent. Alors, on voit que les blessures, elles peuvent être volontaires ou involontaires, mais le pardon, lui, il est forcément volontaire.
Oui, mais pas pour autant facile, parce que même quand la blessure est surprenante, je te parlais tout à l'heure que j'avais été blessée par des personnes qui n'avaient aucune importance pour moi. Comme exemple, j'ai une fille qui s'est attaquée en s'en prenant à ma propre fille pour mieux me pousser, parce qu'elle savait qu'en faisant souffrir mes enfants, forcément, elle était sûre de me faire du mal. Donc, elle a réussi, elle était contente. Donc, moi, j'étais choquée et scandalisée, parce qu'en plus, s'en prendre volontairement à une enfant innocente, cette fille, c'était la présidente de la FCPE, donc normalement une association qui est destinée à veiller au bien des enfants en tant que parents d'élèves. Donc déjà, je trouvais ça dégueulasse, excuse-moi le terme, de s'attaquer à un enfant vulnérable et sans défense, parce que c'était un enfant à un moment où ma fille se faisait harceler violemment par une professeure. Donc c'était vraiment une situation où elle était complètement fragile,
encore plus,
tu vois.
Fragilité.
Voilà, c'était pas par rapport à un élève, c'était par rapport à un adulte, en plus une prof qui a autorité. Donc c'était vraiment très douloureux. Et en fait, ce qui m'a surtout scandalisée, c'est qu'elle l'ait fait volontairement, si tu veux. Parce que je suis allée la voir pour lui dire qu'elle m'avait fait souffrir. Tu sais, je suis dans le dialogue essayer de trouver à améliorer les choses. Et que s'en prendre à ma fille, ça m'avait forcément touchée. Et elle m'a déclaré, je sais, je l'ai fait exprès.
D'accord. Au moins, ce qu'on peut lui reconnaître, Nathalie, tu seras d'accord avec moi, c'est une certaine honnêteté. Tout le monde ne le reconnaît pas. Donc
Tu sais, c'était vraiment sur un ton de défi en disant vas-y, je vais t'appuyer encore plus, quoi. Donc là, j'étais sidérée parce que c'était de la malveillance. Donc en plus, elle a passé après l'année à me martyriser en me calomniant, en me diffamant. Donc ça, c'est au niveau professionnel, c'était dangereux aussi. Cherché à m'humilier, à m'éjecter de l'association en disant aux membres soit c'est Nathalie qui part, soit c'est moi qui donne ma démission. Donc tu vois, le bras de fer a pas marché parce que donc elle a donné sa démission, puis après elle a dit en fait je veux bien revenir, mais du coup elle est arrivée au niveau départemental pour demander au responsable départemental de m'exclure raison.
C'est une rancœur qui est allée assez loin.
Et puis en plus, j'arrivais pas à la comprendre. D'accord. Et puis moi, j'étais investie au niveau des parents d'élèves, au niveau du collège. Enfin, tu te rappelles l'action du bien vivre ensemble. Donc c'était quelque chose de précieux. Enfin, je veux dire, c'est du bénévolat. Donc zut, c'est quoi le problème? Je donnais mon temps, je donnais mon énergie. Pourquoi elle cherchait à tout détruire?
C'est le pourquoi que tu n'avais pas.
Non, et puis en plus, ça me faisait perdre de l'énergie et du temps par rapport à tout ce que je voulais construire, si tu veux. Donc, c'était vraiment compliqué. Et ça m'a fait beaucoup souffrir, alors qu'en fait, elle est rien pour moi, cette fille. Enfin, je veux dire, c'est pas ma copine. Je travaillais avec elle en bénévolat, c'est tout. Donc, franchement, je ne savais pas du tout pourquoi elle arrivait à me faire autant de mal, alors que vraiment, elle représentait absolument rien pour moi.
Et alors là, tu parles à l'imparfait. Est-ce que ça veut dire que maintenant, tu as compris peut-être les ressorts qu'il y avait derrière tout ça, derrière ta réaction, et peut-être derrière sa malveillance, comme tu dis?
Complètement. En fait, c'est avec la question du pardon, justement, on met le doigt sur la question des blessures. C'est-à-dire que quand tu plonges un peu dans les livres de développement personnel, tu découvres une philosophie qui te dit que ceux qui te font mal ne sont pas tes bourreaux, mais tes instructeurs.
Alors, c'est-à-dire?
Oui, c'est un peu curieux.
C'est un peu curieux. Voilà. Mais je comprends ça très, très bien.
C'est-à-dire que, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est que chaque expérience est destinée à te grandir. Donc, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « le feu forge ou brûle ». Nietzsche le dit un peu moins joliment, enfin après, c'est question de goût, « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et comme on l'a vu dans l'émission de décembre, une expérience est destinée à nous grandir, à nous fortifier. Donc, quand on en ressort vainqueur, ceux qui nous ont fait du mal, en fait, ont été nos instructeurs pour devenir plus forts.
Alors, je disais que moi, je comprenais, mais pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, c'est un petit peu surprenant, a priori. Comment est-ce qu'on arrive à cet état d'esprit-là ?
Ouais, c'est sûr que par rapport à la façon de penser en général, c'est un peu une révolution. Mais en fait, quand tu y regardes de plus près, pourquoi pas ? Et est-ce qu'un regard bienveillant ne pourrait pas nous permettre de moins souffrir ?
Dans le sens où quand on a de la rancœur ou une envie de vengeance, en fait, on entretient la blessure et donc la souffrance.
C'est ça. Enfin, en tout cas, je le crois. Et si on veut aller plus loin, il y a aussi d'autres livres passionnants qui nous apprennent qu'il y a différentes catégories de blessures. et que nous sommes chacun sensibles plutôt à l'une ou à l'autre, voire à plusieurs, de façon cumulative, alternative, à différents de notre vie. Enfin, c'est très intéressant. Mmh. Et que les personnes qu'on rencontre sont là pour nous aider à travailler dans ce sens, c'est-à-dire à guérir la blessure qui nous fait du mal. Donc, ben, cette fille, elle a appuyé sur une de mes blessures et j'ai souffert jusqu'à ce que j'identifie la blessure en question. Et ben, que du coup, je travaille pour l'aider à cicatriser. Alors, parce que le chemin est toujours de soi-même.
En fait. Là, on va essayer d'être un petit peu clair par rapport à ce que tu dis. Bien sûr, c'est pas du tout une incitation à faire volontairement du mal aux autres parce que finalement, on serait de gentils instructeurs et qu'on leur rendrait service. Absolument pas. On est
non, d'accord. Non, pas vraiment.
Pas du tout.
En tout cas, c'est pas ma philosophie. Ah. Enfin, de toute façon... Ceux qui veulent avoir ce raisonnement un peu tortueux, enfin bref, on dit comme on veut, il faut quand même qu'ils se souviennent d'une autre loi, parce que la nature dit qu'on récolte ce qu'on sème. Et en plus, la nature est généreuse. C'est-à-dire que ben, quand tu sèmes, ben, la nature nous renvoie de façon multipliée. Par exemple, tu sèmes un grain de blé, tu récoltes un épi. Donc, s'ils veulent être de généreux instructeurs, ils vont récolter un épi de généreux instructeurs. Donc, eux aussi, on va leur appuyer sur leurs blessures qu'il va les aider à grandir. Donc, bon, certains l'appellent la loi du karma. Personnellement, en tout cas, je préfère semer de belles graines, hein, parce que si je blesse quelqu'un, je préfère que ce soit involontaire,
bien
pouvoir
sûr,
m'excuser, essayer... Mmh. Ben, en fait, si tu appuies sur une blessure, le but, c'est pas de faire souffrir, c'est de faire grandir. Donc, si tu te rends compte que tu as fait mal à quelqu'un involontairement, tu peux essayer de trouver quelle est la blessure actionnée et justement, comment permettre à l'autre de faire son propre chemin, parce que le chemin n'est toujours que personnel, c'est pas les autres qui peuvent le faire
bien
à notre
sûr.
Place. Et du coup, faire du mal gratuit, non, c'est, enfin, je l'encourage vraiment pas et je trouve ça carrément surprenant, mais bon, il y a des gens comme ça.
Alors, les blessures dont tu parles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a peut-être des catégories de blessures ?
Alors, en fait, il y a Lise Bourbeau, qui est un auteur assez connu, qui a parlé de ce thème-là, et je le trouve vraiment intéressant. Elle a écrit « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Derrière, on lui a demandé la suite, donc elle a écrit « La guérison des cinq blessures », mais elle a écrit aussi d'autres livres vraiment passionnants, comme « Écoute ton corps », il y a plusieurs tomes. Donc, elle parle du pardon, des émotions aussi, et c'est une femme passionnante parce que ses ouvrages sont vraiment à étudier pour ceux qui sont intéressés par ce domaine. Mais pour en revenir à ta question, en fait, elle indique qu'il y a cinq blessures principales que tout un chacun porte en soi, alternativement ou cumulativement, comme je disais tout à l'heure, et selon les moments de ta vie, ça peut varier.
Oui, donc tu peux passer d'une blessure à l'autre, si on peut dire.
C'est ça.
C'est possible.
En fait, Lise Bourbeau parle d'activation des blessures, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle sommeille toutes un peu quelque part, et après, il y en a qui se mettent en route. Voilà. Selon, effectivement, notre passé, comme tu disais tout à l'heure par rapport à moi, ce que j'avais vécu au niveau des huissiers dans ma maison, mon père, je sais qu'il ne mangeait pas pour nous nourrir, nous. C'est des choses de vécu. Et donc, elle explique qu'une situation dans l'enfance a creusé un sillon relatif à une blessure ou une autre, ou plusieurs. Et qu'il y en a une qui peut dominer, le cours de la vie peut nous apprendre après à soigner cette blessure. Donc d'un coup, cette blessure ne nous fait plus souffrir puisqu'on a réussi à la cicatriser. Mais par contre, une situation peut réveiller une autre blessure qui deviendra du coup dominante à tel moment de notre vie. Et elle s'appuie sur l'observation du corps pour définir les blessures activées. Et ça, c'est vraiment, je trouve vraiment passionnant à étudier parce que morphologiquement, tu vois vraiment les choses et c'est impressionnant. Alors, on peut pas forcément savoir automatiquement, mais vraiment, il y a des fois où c'est marqué dessus, quoi. Et on peut vraiment voir des évolutions dans notre propre morphologie.
Dans le corps.
Dans notre corps.
D'accord.
C'est-à-dire qu'enfant, par exemple, j'avais une morphologie qui traduisait bien ma blessure dominante. Donc, et à presque 22 ans, j'ai vécu un drame terrible. Donc là, j'ai changé du tout au tout et je perdais 1 kilo par semaine. Donc, je devenais tellement fantomatique, je me sentais complètement seule au monde. Et tu ne devineras, la blessure activée était celle de l'abandon.
Et donc, ces cinq blessures, est-ce que tu peux nous les donner rapidement ?
Oui, bien sûr. Donc, Lise Bourbeau les a classées ainsi. Donc, il y a d'abord la blessure de rejet, puis celle d'abandon. Après, il y a celle de l'humiliation, celle de la trahison et celle de l'injustice. Et en fait, chaque blessure nous fait développer ce qu'elle appelle un masque pour nous protéger. Donc, ça nous fait un peu une armure, si tu veux, avec des comportements spécifiques pour échapper à la douleur de la blessure. Donc, quand la blessure est activée, nous avons un comportement spécifique pour nous protéger.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne bien toutes ces notions ?
Oui, donc en fait, si tu veux, de façon synthétique, tu as 5 profils. Il y a le fuyant, le dépendant, le masochiste, c'est pas le terme exact, enfin comme on vit dans la vie courante, c'est le terme qu'elle a donné, le rigide et le dominant.
Alors tu veux dire en fait que chaque profil, comme tu disais, c'est une sorte de petite armure qu'on développe pour atténuer la blessure. Pas de façon systématique, hein, y a des gens qui passent pas par ces profils-là, mais...
Alors, en fait, ces fameux masques nous permettent de contourner la douleur trop vive et d'apprendre à guérir et à cicatriser. En fait, quand une blessure est activée, on sort le masque qui sera le plus en mesure de nous protéger, le temps qu'on arrive à digérer la blessure concernée, si tu veux. Par exemple, le fuyant, par la fuite, essaye d'éviter le rejet, parce que s'il est plus en contact avec les autres, il peut plus être rejeté.
Bien sûr.
Le dépendant, lui, il s'accroche à une personne pour lutter contre l'abandon parce que le fait d'avoir ce contact, tu sais, c'est la glu, là.
Généralement, ça provoque l'inverse, en plus.
Oui,
hein.
Parce qu'en plus, il y a des causes à effet. Et en plus, il y a aussi le fait que la blessure que les autres activent en nous, c'est souvent une blessure que nous-mêmes, on active nous-mêmes envers nous-mêmes. Ouais. Parce que c'est l'histoire du reflet, etc. Donc, on était donc au dépendant. Ouais. Le masochiste, par exemple, il va se blesser lui-même. Parce que comme ça, il sait jusqu'où ça fait mal. Il va dire, oh, je suis nul, plutôt que quelqu'un dise « Ouais, mais t'es carrément un vrai nulard !» Tu vois, c'est ça dose et ça permet de limiter la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le rigide, il crée des règles pour se protéger de la trahison. Et en demandant le respect de ses règles, il pense se prémunir. Mais en même temps, il attire aussi, il peut attiser cette trahison. Et le dominant, lui, avec un comportement autoritaire, il cherchera à empêcher l'injustice qu'il ne supporte pas.
Et dont il a peur, c'est ça aussi, c'est qu'on a, on a peur
oui,
de
oui,
ces,
oui,
de ces choses-là.
Oui, 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 parce qu'on sait la fragilité, donc du coup, voilà. Et c'est, enfin, je vous invite vraiment à découvrir ces livres parce que c'est pas en deux mots qu'on peut en les résumer, mais c'est vraiment bourré d'informations, tant pour nous-mêmes que pour les autres.
Alors, on rappelle peut-être l'auteur, c'est Lise Bourbeau, et toi, vraiment, grâce à ces explications qu'elle donne, elle, dans ses livres, toi, tu as pu reconnaître tes blessures et celles des autres. Tu as pu l'appliquer, toi, par exemple, dans ton
complètement. Et travailler, justement, en identifiant, par exemple, à un moment, la blessure d'humiliation, quand tu dis « Oh, ben, je suis bête, oh, je suis conne » ou n'importe quoi. Toc, toc, toc. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je reformule en disant « Ah, ben, j'ai pas pensé à ça » ou « Je vais me concentrer » ou des choses comme ça. Toujours mes petits mots positifs. Mmh. Et après, du coup, ton cerveau les enregistre et te permet de grandir. Mais c'est, comme tu le soulignes, c'est un double intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour nous-mêmes, mais pour les autres, parce que pour nous, reconnaître nos blessures, ça permet de travailler dessus, donc de les atténuer, éventuellement d'éviter les coups, parce que quand on identifie, on dit ah, attention, là, c'est mes pieds, marchez pas dessus, je vais faire un pas de côté, tu vois. Mais pour les autres, savoir discerner les blessures a aussi deux avantages. C'est-à-dire que le premier, c'est d'éviter d'appuyer dessus pour pas que l'autre souffre trop fort, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui le fera. Hein. Et le second qui en découle, c'est d'éviter aussi la réaction, parce que il va avoir une douleur. Donc une douleur, en général, tu cries, tu tapes, tu te défends. Donc si en plus la personne est ouverte, en fait, tu peux lui parler de sa blessure, ce qui permet de la cicatriser au lieu de l'activer. Et ça lui permet d'avancer donc sur son chemin de guérison.
En tout cas, de l'aider ou
de progresser.
De progresser, ouais. Donc, on évite de faire du mal aux autres, et ça, c'est quand même extrêmement important. Et on évite aussi de se faire du mal, puisque les deux sont directement liés.
Oui, parce qu'en fait, il y a l'effet boomerang, parce que si on fait du mal, ça va nous revenir dans la figure. Et plus on avance, plus on progresse vite et facilement, parce que savoir identifier les blessures devient un mécanisme, si tu veux, un peu un automatisme, et ça nous permet de recevoir moins de coups, donc moins de souffrance. Et, si tu veux, un peu, c'est comme un athlète, la course, c'est fatigant, quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. C'est une habitude. Et une bonne habitude, ça permet de
Et
faire les choses plus
ce que tu
facilement.
dis, c'est on peut donc avancer, les identifier, etc. Est-ce qu'on peut en guérir de ces blessures?
Alors, a priori, par rapport à ce que j'en ai lu, non. C'est-à-dire, comme je disais, elles peuvent être en sommeil ou activées. Et toute notre vie, c'est un chemin vers plus de maîtrise pour travailler ces blessures et les aider à cicatriser.
Bon, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais comme tu dis, il y a des façons, il y a des méthodes pour en tout cas les identifier et mettre des petits pansements.
Oui, bah et puis même carrément, désinfecter et tout.
Désinfecter, ouais.
Et donc en fait, si tu veux, j'aime toujours le, enfin tu connais le côté positif
Oui.
de chaque chose. Donc il y a une image encore que, enfin encore une que j'aime beaucoup, c'est que certains disent que la vie est un diamant et que plus tu le tailles, plus il aura de facettes pour réverbérer la lumière.
Ça, c'est joli.
Et ben dis-toi que c'est un peu comme, enfin chaque blessure, c'est un peu comme chaque coup de burin qui
Ouais.
façonne la facette. C'est douloureux, c'est tel diamant.
Oui, j'imagine que ça doit pas,
Voilà.
ça fait pas du
Enfin
bien.
bon, voilà, on n'est pas,
On
enfin
n'est pas un
c'est
diamant,
l'image.
mais enfin, ouais, c'est l'image.
Mais pourtant, en fait, plus il aura de facettes et plus il brillera de mille feux. Donc
C'est assez parlant. Dit comme ça, c'est très parlant.
voilà, et on retrouve un peu l'image du fer forgé qui grandit dans les épreuves, mais ne casse pas et se renforce.
Et tu
Donc,
réussis encore à nous montrer l'aspect positif de tout ça, Nathalie.
ben c'est ce que j'essaye de faire. Et puis en plus, il y a une suite dans cette image de diamant.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est dit aussi que quand tu tailles ton diamant, tu peux te louper, tu peux le casser en deux.
Aïe, et comment on fait dans ces cas-là?
Eh ben,
On le recolle?
non.
Ah.
En fait, tu reprends le plus gros morceau
D'accord.
pour le retravailler et donc tu retailles avec d'autres facettes et de cette façon tu réverbères la lumière parce que dans notre vie on peut avoir vraiment des drames qui
Sûr.
nous coupent et puis on se dit bah là non la lumière elle brille plus enfin et c'est foutu et jamais je pourrais m'en sortir mais non les diamants enfin tu vois les boucles d'oreilles les machins
Bien
t'en
sûr.
as qui sont minuscules et pourtant mais comment ça brille donc tu vois c'est vraiment quelque chose
C'est une belle
qui
image, ça, en tout cas. Il faut s'en souvenir parce qu'elle est très parlante.
Oui, parce que, enfin, quelle que soit la taille du diamant, ce qui compte, c'est la lumière qui les réverbère. Et donc, c'est riche d'espoir, si
Bien
tu veux.
sûr.
Ça ne veut pas dire que la vie est facile, parce que ça, clairement, bon, voilà, tout le monde la vit. On sait bien que, voilà, c'est pas, même en étant bisounours, il y a des choses pas évidentes. Mais elle peut être magnifique. Et donc, quelles que soient les épreuves, on peut retrouver son rayonnement, quelle que soit l'importance des épreuves, parfois même d'autant plus forte que tu sors d'une épreuve terrible, en fait. Tu sais encore plus le prix de la vie, et tu veux la vivre pleinement.
Et je précise ça aux auditeurs parce qu'évidemment, on rentre pas dans ton histoire personnelle, mais c'est quelque chose que tu as vécu. Et ça, pour eux, ça peut être très inspirant parce que ce que tu nous dis, tu l'as vécu.
Ah
Et
oui,
ça,
ça,
c'est.
oui. J'ai effectivement traversé des vrais enfers à différents moments de ma vie. Donc, c'est plus que douloureux, c'est vraiment des choses qui détruisent. Mais ça m'a donné du coup un goût de vivre incroyable. D'une part, parce que bah, j'ai su me relever à différentes reprises. Donc, une fois plus une fois, tu te dis bah, la fois suivante,
Tu te
normalement.
dis que tu peux le faire.
En tout cas, je peux essayer.
Ouais.
C'était, je ne sais plus sur quelle émission, on disait qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on a échoué tant qu'on n'est pas au dernier jour de notre vie. Donc, tant qu'on ne s'est pas relevé, on ne s'est pas relevé, mais rien n'empêche de continuer d'essayer. Et les épreuves, on peut les penser insurmontables. Mais comme je sais que j'ai eu les forces nécessaires à un moment de ma vie pour me relever, bah pourquoi je ne pourrais pas retrouver ces forces dans des circonstances graves? Quand tu as trouvé une solution à un problème majeur, en fait, quand tu es confronté à un autre problème, même important, bah, tu as quand même une confiance en toi qui a grandi. Et donc, bon, quand tu sors de l'enfer aussi, tu as aussi envie, tu veux des fleurs, tu veux de la joie, tu veux des chants, des amis, des oiseaux, du soleil, enfin, tu veux plus ça, quoi, plus jamais. Et tu veux laver ton corps, ta mémoire des souffrances incrustées, donc tu veux vivre ta vie vraiment pleine. Et au-delà de toute limite.
Et ta vie, c'est ça qui est important, c'est pas celle qu'on veut t'imposer, tu gagnes peut-être aussi en liberté.
Oui. Et c'est d'ailleurs un vecteur commun qui ressort avec les NDE, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Near Death
Oui,
Experience,
tout
ou
à
la
fait.
mort imminente en français, parce que mon accent
Ça change la vie
est
des gens.
terrible. Donc c'est ces personnes qui ont connu la mort et qui sont revenues vivre. C'est-à-dire, elles ont fait le chemin inverse, elles se sont réincarnées parce qu'elles avaient un chemin de vie à terminer sur Terre. Et ça, c'est encore un domaine assez fascinant.
Alors, a priori, on s'éloigne un petit peu de notre thème,
Oui,
mais enfin, on voit le lien
pardon.
quand même.
Donc, en fait, ce que je vois aussi en plus le temps passer. Donc, on n'a pas du tout parlé de la résilience. Ce sera pour la prochaine fois, je pense. Mais parce que je voudrais souligner un aspect du pardon qui me paraît vraiment important, c'est de se pardonner aussi à soi-même.
Alors, tu disais tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple qui va parler aux gens sans doute du candidat dans Koh-Lanta, c'est ça, qui se sentait désolé alors que la personne qui l'avait blessé
lui en voulait pas du tout. Et parce que des fois, en fait, quelle que soit notre erreur, on fait les autres nous la pardonnent et nous on se flagelle, on s'en veut, on s'ancre dans cette culpabilité morbide et du coup on fait subir aux autres un vrai calvaire.
Alors, parce que pourquoi un vrai calvaire? Parce que ça a des incidences sur nous.
Parce que comme on est désagréable, on est agressif, dépressif, négatif. Enfin, il y a tous les adjectifs possibles. En fait, ça revient au sujet de la culpabilité. Quand on se juge, on ne se pardonne pas. Donc, on entretient la culpabilité. Je suis méchant, je suis nul, je suis tout ce que tu veux. Donc, on se donne de bonnes excuses pour ne pas être responsable de sa vie. Et en fait, on la gâche en abîmant celle des autres parce que quand on rate sa vie par peur de la vivre, on fait souffrir ceux qui nous aiment, qui voudraient nous voir heureux et épanouis. Je voudrais vraiment délivrer ce message aujourd'hui. Soyez bienveillants avec vous-même. Pas laxiste, hein, pas dire « Ouais, bah, c'est bien, je me pardonne, j'ai fait une connerie. »
Voilà, c'est pas du tout ça.
Mais et que après tu recommences parce que là on rejoint celui qui s'aime récoltera.
Oui,
donc,
bien sûr.
Mais par contre, se pardonner une erreur, c'est précieux. Accepter l'erreur, ça veut dire la reconnaître et ne pas la refaire.
Ça veut dire l'identifier, exactement.
Voilà, complètement.
Pour ne pas la reproduire.
Et c'est se reconnaître responsable de dire je prends la responsabilité de ne pas recommencer. Et c'est pas j'ai pas le choix pour pas être responsable et subir sa peine, si tu veux.
Et ça, c'est ce qu'on a développé, c'est vrai, dans l'émission du mois dernier.
Mmh. Et ce que je voudrais dire, c'est que le pardon, c'est un geste d'amour. Et donc, si vous aimez ceux qui vous entourent, pardonnez-vous pour leur faire vivre, pour qu'ils vous voient heureux et qu'ils vivent eux aussi heureux de vous voir heureux. Sinon, vous ferez de leur vie un enfer en les obligeant à vous regarder souffrir, porter sempiternellement une croix au lieu de la poser à terre. C'est-à-dire que le Christ est venu sur terre pour porter la croix à notre place. Il a subi la passion pour nous. Donc, ayons la reconnaissance de ne pas porter nos croix par plaisir et de les poser à terre pour que son martyre ne soit pas vain.
Et de pardonner aux autres aussi. Parce que c'est vrai que se pardonner à soi-même, c'est difficile. Mais pardonner aux autres, parfois, nous-mêmes, on est confrontés à ça et on peut bloquer.
Je pense qu'on développera avec le thème de la résilience.
Tout à fait. Merci beaucoup pour ce message, pour ces paroles. On va se dire au revoir maintenant, Nathalie.
Avec plaisir. Et puis, à bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Au revoir. Tells